RCF.
Patrick Rambourg, est-ce que l'évolution de la manière dont on met la table, dont on se tient à table, est importante à souligner au 19e et 20e siècle?
Oui, parce que pendant des siècles, on ne parlera que du service à la française, bon, pour les grandes tables, bien sûr. Alors déjà, avec le succès du restaurant, le service à la française n'était plus vraiment utilisé, puisque le convive choisit son repas au moment où il arrive, au dernier moment. Donc là, on voit que quelque chose est en train de se mettre en place, que l'on va appeler service à la russe. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une origine russe. Le service à la russe, c'est un service où l'on sert les plats les uns après les autres, et non plus un ensemble de plats que l'on pose en même temps sur la table. C'est une révolution et qui va faire débat dans la première partie du 19e siècle. Parce que les cuisiniers s'étaient habitués à considérer que la cuisine française est une cuisine artistique parce que l'œuvre culinaire est visuelle. Elle est sur la table. Or, le service à la russe vide la table. Donc ça va leur poser un problème. Si on change de service comme ça,
plus d'harmonie entre les plats, entre les plats, entre les formes.
Exactement. Et la cuisine française ne sera plus considérée comme un art. Donc, pendant quelques temps, on va avoir trois services selon le beau vouloir du convive ou du cuisinier. Service à la russe, service à la française et service mix où on utilisera à la fois à la française et à la russe. Ça veut dire que d'une façon générale, les plats froids seront présentés sur la table, mais les plats chauds seront servis les uns après les autres, prédécoupés. On servira directement dans l'assiette du convive. C'est grâce au service à la russe que le verre apparaît sur la table, désormais, puisqu'on a la place, et pas qu'un seul verre. On voit apparaître plusieurs verres qui vont correspondre donc au vin que l'on va consommer, le verre à vin blanc, le verre à vin rouge, le verre à Bourgogne, le verre à Bordeaux, la coupe de champagne, etc. C'est à cette époque aussi qu'apparaît cette vaisselle bourgeoise que l'on retrouve dans les placards de nos grands-mères.
Porcelaine,
cette diversité d'assiettes que l'on va superposer, cette diversité de fourchettes, couteaux. Donc on voit une vaisselle de table nouvelle qui apparaît à ce moment-là.
À quel moment la salle à manger est devenue aussi un lieu répandu?
Alors, elle s'affirme au XVIIIe siècle dans les grandes demeures, hein, les hôtels particuliers parisiens ou dans les hôtels particuliers des grandes villes de France et de Navarre. Et puis progressivement, ça se divise dans le reste de la société. Mais encore au XIXe siècle, tout le monde n'avait pas une salle à manger à la maison. Hein. Avoir une salle à manger à la maison comme avoir une cuisine à la maison, c'est quand même très récent. Il faudra attendre au moins le XXe siècle. Pendant très très longtemps, dans certaines demeures à la campagne, on a encore une pièce principale pour tout.
Il y a un phénomène important que vous voulez souligner, Patrick Rambourg, c'est celui des spécialités régionales. Est-ce que ça, c'est propre à la France?
Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est propre à la France, mais ces cuisines régionales vont jouer un rôle très très important dans l'évolution de la cuisine en France. Pendant très longtemps, quand on parle de la grande cuisine française, c'est avant tout la grande cuisine parisienne. Pendant très très longtemps, on considérait que la cuisine régionale ou les plats locaux ne représentaient pas la grande cuisine française. Cela va changer avec le 19e siècle. D'abord, au 19e siècle, apparaissent les premiers livres de cuisine régionale en Alsace, en Provence. Ce n'est pas anodin, ce sont des régions à forte identité. Ces livres de cuisine apparaissent à un moment où les régions veulent montrer leur identité.
Donc il y a une arrière-pensée politique derrière?
Oui. La cuisine régionale se met en place contre le centralisme parisien, on peut dire ça comme ça. Et dès lors qu'apparaissent ces premiers livres de cuisine régionale au début du 19e siècle, toutes les régions de France vont vouloir leurs livres de cuisine, dans le Bordelais, en Gascogne, dans le Poitou, etc. Donc c'est mettre en avant une identité régionale pour valoriser des pratiques culinaires. On pensait que progressivement elles allaient disparaître.
Mais des pratiques réelles?
Pratiques réelles et des recettes qui ont été plus ou moins inventées, qui sont devenues des traditions régionales aujourd'hui. Alors, pour vous montrer la tension qu'il pouvait y avoir avec la cuisine régionale, je vous donnerai l'exemple du cassoulet, par exemple. Le cassoulet, donc les trois villes se disputent la paternité du cassoulet, Toulouse, Castelnaudary et Carcassonne. Mais ça montre qu'on prend conscience d'une cuisine régionale.
Et de la richesse et de la diversité de la cuisine.
Exactement, de la richesse et de la diversité de la cuisine française.
La suite de l'histoire, Véronique Alzieu.
Cette richesse-là, elle est quand même aussi à chercher certainement du côté de la diversité des produits qui sont cultivés en France.
Oui, mais c'est pas suffisant parce que Il faut une reconnaissance extérieure pour considérer qu'une cuisine est spécifique à une région ou à une ville ou à une province. Et surtout, il faut que ça soit codifié. Codifier des recettes dans un livre de cuisine, ça fige une recette, c'est vrai. La recette nous présente un texte écrit de pratique qui se faisait à telle époque. Or, la cuisine est en constante évolution. La blanquette de veau, qui se faisait encore au début du XXe siècle, et celle que l'on fait aujourd'hui, elle a changé. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, une blanquette de veau faite dans un restaurant, elle n'est plus liée avec du roux, on y met moins de crème fraîche, et parfois on n'y met pas le jaune d'œuf. Alors que la recette de ma grand-mère, il y avait le roux, la crème en grande quantité, et les jaunes d'œuf, trois liaisons pour une même recette. Donc on a une tradition qui s'adapte à la modernité de la société, parce qu'aujourd'hui, on aime toujours bien manger comme nos ancêtres, mais on a aussi tout ce discours diététique, bien manger, c'est aussi manger sainement.
Patrick Rombourg, la codification dont vous parlez permet aussi l'apparition des critiques gastronomiques?
Oui, les critiques gastronomiques, ils apparaissent vraiment officiellement dans le courant du 19e siècle. Et on a deux pères fondateurs du discours gastronomique ou du discours critique moderne. Grimaud de la Reynière, qui est né à la fin du 18e siècle et qui va être célèbre à son époque avec l'Almanach des gourmands. Et puis on a un autre personnage, c'est Brillat Savarin, avec La physiologie du goût, 1826. Énorme succès qui donne les aphorismes « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es », par exemple. Alors, la gastronomie devient une science, depuis le bébé jusqu'au mourant qui appelle son dernier bouillon.
Patrick Rombourg, on va terminer ces entretiens en parlant de la cuisine telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, la cuisine nouvelle. La nouvelle cuisine, je ne sais pas, il y a eu aussi le phénomène de la nouvelle vague au cinéma. C'est un peu du même ordre?
C'est un peu du même ordre. Dans les années 70-80, on a un véritable phénomène qui apparaît que l'on va nommer la nouvelle cuisine. Alors, l'historien sait que les termes sont déjà utilisés au XVIIIe siècle. Alors, c'est un phénomène de médiatisation extrêmement important. On est dans la période des Trente Glorieuses encore. Et les quadragénaires des années 70 ne trouvaient plus dans les restaurants une cuisine en accord avec leur mode de vie moderne. Ils trouvaient une cuisine un peu trop lourde, un peu trop sophistiquée, dite cuisine d'Escoffier. Escoffier, Auguste Escoffier, grand chef du tournant du 19e siècle et du 20e siècle, avait modernisé la cuisine à cette époque et avait publié un livre qui s'appelle « Le guide culinaire ». Or, le guide culinaire est devenu une telle bible dans le mode des cuisiniers que nombre de cuisiniers se sont trouvés enfermés dans cette bible
culinaire. Ça a figé les choses.
Ça a figé les choses.
Et donc, à un moment donné, on a eu envie d'en sortir.
Exactement. Avec les années 70, une nouvelle génération de cuisiniers apparaît. C'est Michel Gérard, Bocuse, c'est Robuchon et bien d'autres personnages et grands chefs qui sont les grands noms de la cuisine française encore aujourd'hui. Et l'arrivée de deux journalistes qui vont jouer un rôle important dans la médiatisation de la cuisine, c'est Gau et Millau, qui vont créer un guide. On est à un moment donné où on a d'un côté des jeunes chefs qui proposent une cuisine différente, allégée, où là aussi on parle d'une vraie cuisine, du vrai goût des aliments, le discours qu'on a déjà vu au XVIIe siècle quelque part. Et puis d'un autre côté, on a des journalistes qui cherchent cette nouvelle cuisine et qui vont la trouver auprès de ces jeunes chefs. Et d'un autre côté, on a un public qui demande une nouvelle cuisine. Et donc, on a les trois...
Tous les ingrédients, ils sont donc...
Tous les ingrédients sont là pour le succès de cette fameuse nouvelle cuisine. Succès français et succès international.
Je suis arrivé dans une station thermale. On venait déjà à l'époque pour maigrir. Et j'ai imaginé...
Michel Guérard, chef cuisinier.
Une cuisine qui ne... de régime, mais qui serait le contraire d'une punition. C'est-à-dire une cuisine de plaisir. Le plaisir étant... en soi une forme de thérapie. Donc ce livre qui est sorti en 1976 est le fondement même, si vous voulez, d'une nouvelle cuisine de santé qui tient toujours très bien la route.
La suite de l'histoire.
Cette nouvelle cuisine est le dernier grand fait historique dans le contexte hégémonique de la cuisine française jusqu'aux années 90 du XXe siècle.
Qui est en train de disparaître là?
Alors, on ne peut plus dire aujourd'hui que la cuisine française est une cuisine hégémonique. Elle est toujours un modèle dans le monde entier. Mais la cuisine est devenue un phénomène international. Ça ne veut pas dire pour autant que le modèle français n'existe plus. Il est toujours là et c'est toujours un modèle. Mais cette nouvelle cuisine va montrer comment la cuisine française dans l'histoire a toujours été capable de se remettre en cause, de s'ouvrir aux influences extérieures, de rebondir lorsqu'elle était critiquée. Et là, à cette époque, l'influence extérieure est l'influence japonaise. C'est à ce moment-là que se mettent en place les poissons moins cuits, la viande beaucoup moins cuite aussi, les légumes croquants. C'est-à-dire c'est un phénomène de la grande cuisine française qui s'est très rapidement diffusé dans toutes les familles. Il y a toujours eu des connexions entre la grande cuisine qui se faisait chez les élites et le reste de la société, par l'intermédiaire de la classe moyenne qu'on appelle la bourgeoisie. C'est-à-dire que progressivement, la cuisine aristocratique ou les manières de manger aristocratiques se diffusaient dans le reste de la société, tout en étant simplifiées, bien sûr. Et on a des textes au XVIIIe siècle, notamment avec ces livres qui apparaissent sur la cuisine bourgeoise, où on nous explique que le modèle de la cuisine bourgeoise se construit par rapport au modèle aristocratique, mais beaucoup plus simplifié. Et progressivement, comme ça, ça se diffuse dans la société. C'est quand même incroyable que, par exemple, ce brochet au beurre blanc que l'on trouve dans les traités élitistes du XVIIe siècle se retrouve dans les familles françaises au XXe siècle. Et cette nouvelle cuisine, aujourd'hui encore, on y vit dessus. On cuit moins le poisson, on cuit moins la viande, on cuit moins les légumes. Et surtout, c'est la déculpabilisation de la gourmandise et du plaisir de manger. C'est ça qu'a apporté la nouvelle cuisine aussi. Longtemps, aimer manger, c'était pas toujours perçu comme quelque chose de très positif.
D'ailleurs, la gourmandise étant un des sept péchés capitaux.
Exactement. Aujourd'hui, bien manger, c'est aussi une forme d'hédonisme, c'est aussi une forme de culture, c'est aussi montrer sa manière d'apprécier la vie et aussi montrer sa façon d'apprécier la vie française.
Un très grand merci, Patrick Rambourg, d'être venu nous parler de cette histoire de la cuisine et de la gastronomie française. Je rappelle que vous consacrez un livre à cette question paru aux éditions Perrin dans la collection Timpus. Et je rappelle que vous êtes historien des pratiques culinaires et alimentaires et que vous enseignez à l'université Paris 7. Merci encore.
Merci.